Il n'est pas rare d'avoir des mauvaises nouvelles dans nos journaux télévisés, sur Internet, sur nos journaux écrits. Voilà, telle ou telle guerre, telle ou telle crise, telle maladie, telle épidémie. Et encore, j'aurais pas mal de choses à dire sur tout ce qu'on peut entendre de mauvaises nouvelles. Imaginez certaines bonnes nouvelles, du genre « telle guerre est finie ». Enfin, nous avons trouvé tel remède pour telle maladie grave, pour le cancer ou autre. Cela ferait la une des journaux et nous réjouirait beaucoup. Mais il y a une nouvelle bien réelle, qui est encore plus forte que tout ce que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas telle maladie, ce n'est pas telle guerre qui est arrêtée, mais c'est la mort même qui est vaincue. Ça, c'est la nouvelle qui est digne de faire la une de tous les journaux. C'est la nouvelle que nous allons fêter dans 15 jours à Pâques, que des milliards de chrétiens vont fêter, au moins 2 milliards, parce que c'est la nouvelle la plus belle, une des plus belles qui puisse exister. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, et la résurrection de Lazare, que nous venons d'entendre, nous prépare à fêter cette victoire. Dans cette perspective, il est bon, dans un premier temps, de mieux comprendre ce qu'est la réalité de la mort et comment mourir en chrétien. Quelle est la cause de l'existence de la mort? Tout d'abord, on sait que les corps humains, comme les corps des animaux, ont une durée de vie limitée, de façon naturelle. Après la mort, notre corps se désagrège, mais notre âme survit. Tandis que pour les animaux, il n'y a pas la survivance d'une âme. Pour moi, c'est une grande question, quand mon chien était mort, mais qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il a une âme? Ben non, nos animaux n'ont pas d'âme. Mais nous avons, à la mort, une fracture intérieure, nous avons la séparation de notre âme et de notre corps. Alors que nous sommes faits pour avoir une âme et un corps qui sont unis. Alors si notre corps, naturellement, biologiquement, a une durée de vie limitée, notre âme a une nature qui ne peut pas mourir, qui existe éternellement. Et à cause de cette âme, eh bien, les humains veulent lutter contre la mort. Ils ont en eux un dynamisme pour une vie qui ne finit pas. Et c'est la raison pour laquelle l'homme, à la différence de l'animal, construit des tombes, des monuments funéraires, parfois grandioses, comme les pyramides, pour signifier son désir de vie après la mort. Alors comment concilier notre corps, qui biologiquement est fragile, et notre âme, qui peut vivre après notre mort corporelle? Ça paraît incompatible. Eh bien, la réponse vous est donnée non pas par une réflexion, mais par une révélation, la révélation de la Bible, où nous est montré qu'à l'origine, Dieu, par une grâce spéciale, avait donné à nos premiers parents l'immortalité de leur corps, pour que ce corps puisse être profondément en adéquation avec leur âme. Et parce que nos premiers parents sont séparés de Dieu à l'origine, ce qu'on appelle le péché originel, la mort de leur corps est advenue. Ils ont perdu cette aide de Dieu en se détournant de Dieu. Ainsi, nous l'avons entendu dans cette seconde lecture, le corps reste marqué par la mort à cause du péché. Cela est confirmé par toute la Sainte Écriture, la Sainte Tradition. Et c'est important pour nous, notamment quand nous vivons des deuils, la mort de nos proches, ou bien sûr notre propre mort, car nous mourrons tous, eh bien tout cela n'est pas sujet à accuser Dieu. Dieu n'est pas coupable de la mort. Nous subissons ces conséquences de ce péché originel. Non seulement Dieu n'est pas coupable, mais il a de la compassion pour ceux qui meurent. Nous voyons Jésus, dans cet évangile, devant la mort de son ami Lazare, qui se mit à pleurer. Non seulement Dieu a de la compassion, mais en plus il n'est pas impuissant face à la mort, comme nous allons le voir maintenant, pour Lazare et ensuite pour nous-mêmes. Quand Jésus apprend la mort de Lazare, en fait, comme il est Dieu, il sait ce qui va se passer. Il dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Il sait que Lazare va mourir, mais que cette mort est temporaire, ce n'est pas une mort qui durera toujours. Ainsi, il le ressuscite, il dit « Lazare, viens dehors !» Et Lazare sort, et Jésus dit « Déliez-le, laissez-le aller !» Ce qui donne à son entourage l'occasion de croire en lui. Il montre sa puissance divine, ce n'est pas une simple réanimation d'un coma, puisque Marthe, la sœur de Lazare, dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour qu'il est là. » Dans l'histoire, il y a eu d'autres résurrections réelles, hein, opérées par la prière de saintes personnes. Et ces résurrections, comme celle de Lazare, ont toutefois une différence avec la résurrection de Jésus que nous fêterons à Pâques. Le corps du Christ, quand il ressuscite, est dans un état nouveau, qui fait qu'il ne peut plus mourir, il est transformé. Alors que le corps de Lazare n'est pas dans cet état nouveau encore, il mourra à nouveau une seconde fois. Alors je pense que quand il mourra à nouveau, eh bien, il aura fait cette expérience de la résurrection qui fait qu'il mourra dans une grande confiance en Dieu. Eh bien, c'est aussi notre cas pour chacun de nous. Nous sommes appelés, à l'approche de notre mort, un jour, à la vivre avec confiance en Dieu, à mourir chrétiennement. Tout d'abord parce que nous avons reçu notre vie de Dieu, de nos parents, mais à travers nos parents, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un don immense que Dieu veut protéger. C'est pour cela que le commandement « Tu ne tueras pas » s'adresse aussi à nous. Nous ne pouvons pas nous mettre à mort. Nous opposons dans ce cas-là au commandement de Dieu. C'est pour cela aussi que l'euthanasie n'est pas acceptable, car notre propre vie, comme la vie de toute personne, est comme sacrée, car elle vient de Dieu. Au moment de la mort, nous sommes appelés déjà à recevoir l'aide de l'Église, et nous, les prêtres, eh bien, une de nos missions, c'est d'être présents auprès des mourants, pour leur donner la prière de l'Église, les grâces nécessaires pour aller au paradis. Aussi, nous sommes appelés à militer pour cela. Il y a des soins palliatifs qui permettent aux personnes qui sont en fin de vie d'être accompagnées humainement et aussi avoir l'aide médicale nécessaire tout en respectant leur vie sans les mettre à mort. Les chrétiens ont donné un nouveau nom au lieu où on enterre les morts. Ils ont appelé cimetière. Cimetière, ça vient d'un mot grec qui veut dire le lieu où l'on dort. Au sens que, chrétiennement, la mort est comme un sommeil, c'est-à-dire provisoire. Si on s'endort, c'est pour nous réveiller. Ainsi, Jésus dit « Lazare, notre ami, s'est endormi ». Voilà, il compare la mort de Lazare à un sommeil, puisqu'il le sait que dans quatre jours après, et que quelques jours après, Jésus le ressuscitera. Ce qui est vrai pour Lazare est aussi vrai pour nous. Notre mort est provisoire. Jésus dit « à une condition de croire en Jésus et de vivre selon ce commandement ». Jésus dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors, pour notre corps et pour notre âme, que devient notre passage par la mort? D'abord, pour l'âme. La mort devient un passage pour la vie éternelle et nous construisons notre vie éternelle dès maintenant. La façon de croire en Dieu, d'aimer les autres, d'aimer Dieu, eh bien, prépare notre vie pour toujours. Et vous, fiancés, vous construisez votre couple pour toute la vie. Et c'est quelque chose de beau. Et je suis admiratif devant votre désir. Et nous voulons vous donner tout ce qu'il faut pour cela. Mais en plus, c'est non seulement pour la vie, mais votre amour de charité, vécu dans cette vie, prépare votre amour éternel. Bien sûr, après la mort, ce n'est pas comme le mariage. C'est une façon différente de s'aimer. Mais c'est quand même un amour. Et donc, il y a un enjeu dans votre vie de fiancé, puis plus tard de marié, de préparer votre amour éternel, un amour de Dieu, de votre conjoint et de vos futurs enfants. Ça, c'est pour l'âme. Nous sommes appelés à continuer à vivre après la mort grâce à l'âme, qui est l'intime de notre personne. Puis, nous aurons aussi la résurrection de notre corps. Marthe dit à Jésus, « Je sais que Lazare ressuscitera au dernier jour. » Voilà, au dernier jour, quand Jésus reviendra, eh bien, nos corps ressusciteront. Nous n'avons pas de date. Nous ne sommes pas comme les témoins de Jéhovah qui ont donné trois fois la date, alors que Jésus nous avait dit il n'y aura pas de date pour garder notre cœur prêt. Ça peut être comme dans un mois, comme dans 10 ans, comme dans 1000 ans, mais cela arrivera. Ce sera une résurrection comme celle de Jésus. Nos corps ne pourront plus mourir, ne pourront plus souffrir. Une vie nouvelle pour laquelle nous sommes faits. Le carême nous prépare à cela. Le carême, c'est une préparation à Pâques, mais aussi c'est un entraînement, un temps de conversion pour vivre selon l'Esprit Saint, pour vivre selon les commandements de Dieu. Nous avons entendu dans cette seconde lecture, frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. L'emprise de la chair, c'est-à-dire, eh bien, non pas que le corps soit mauvais, mais c'est de vivre selon simplement nos pulsions, sans être soumis à notre liberté pour le bien et à l'Esprit Saint pour suivre la volonté de Dieu. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Bien que cela nourrisse notre espérance pour nous-mêmes et pour nos défunts. Amen.